Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Chapitre 21. Madame Mantalini se trouve dans une position assez difficile, ce qui fait que Mademoiselle Nickleby se trouve n'avoir plus de position du tout. Les émotions par lesquelles avait passé Catherine Nickleby l'avaient mise dans l'impossibilité de reprendre pendant 3 jours ses occupations chez la maîtresse couturière. Quand elle fut remise, elle se rendit à l'heure accoutumée, d'un pas encore languissant, au temple de la mode où Madame Mantalini tenait son sceptre souverain. Le mauvais vouloir de Mademoiselle Nag n'avait, dans l'intervalle, rien perdu de sa violence. Ces demoiselles continuèrent scrupuleusement de se refuser à toute relation avec leurs camarades, mises au ban de l'atelier. Et, quand cette fille respectable arriva quelques minutes après, elle ne se donna pas la peine de discuter son mécontentement du retour de Catherine. « Ma parole d'honneur !» dit-elle à ses satellites empressés autour d'elle pour la débarrasser de son châle et de son chapeau. « Il y a des gens à qui je supposais au moins assez de cœur pour se retirer tout à fait en voyant qu'elle embarra leur présence cause aux personnes honnêtes. Mais le monde est si étrange. Oh, certes, il faut que le monde soit bien étrange. » Miss Nag, après avoir fait sur le monde cette réflexion déplaisante du ton dont on parle toujours du monde quand on est de mauvaise humeur, c'est-à-dire en ayant l'air d'oublier qu'on en fait partie soi-même, finit par un profond soupir, sans doute un soupir de charitable compassion pour la perversité du genre humain. L'assistance lui rendit aussitôt son soupir, et Miss Nag s'apprêtait sans doute à les favoriser de quelques nouvelles réflexions morales, quand la voix de Madame Mantalini, apportée sur l'aile du tube de caoutchouc, manda au premier Mademoiselle Nickleby pour l'aider à ranger le salon d'apparat. Distinction flatteuse dont Mademoiselle Nag fut tout émue, remuant la tête avec tant de vivacité et se mordant si bien les lèvres qu'elle en perdit, pour l'instant, les rares facultés dont elle était douée pour entretenir la conversation. « Eh bien, Miss Nickleby !» dit Madame Mantalini en voyant Catherine. « Êtes-vous tout à fait remise, mon enfant ?»«
Je vous remercie, madame, je suis beaucoup mieux. »«
Je voudrais bien en dire autant !» reprit Madame Mantalini en s'asseyant d'un air très abattu. « Seriez-vous malade ?» demanda Catherine. « J'en serais bien désolée. »«
Pas précisément, mais tourmentée, mon enfant, très tourmentée. »«
Je suis encore plus désolée de ce que vous me dites là, » dit Catherine avec douceur. Les maux du corps sont moins pénibles que ceux de l'âme.
Ah, ce n'est rien que de le dire. Il faut en souffrir pour le savoir, dit Madame Mantalini en se frottant avec rage le bout du nez.
Allons, mon enfant, à l'ouvrage. Rangez-moi bien tout cela. Pendant que Catherine se demandait en elle-même avec étonnement ce que signifiaient ces symptômes de contrariété nouvelle, Monsieur Mantalini passa par la porte entrouverte. D'abord le bout de ses moustaches, puis insensiblement toute la tête, et cria d'une voix tendre
« L'âme de ma vie est-elle ici ?»«
Non, » répondit sa femme.
« Comment pourrais-je le croire quand je la vois d'ici briller dans le salon comme une charmante petite rose dans un diable de peau à fleurs ? Son bichon peut-il entrer pour lui parler ?»«
Certainement non, » répliqua sa femme.
« Vous savez que je ne vous permets jamais d'entrer ici. Passez votre chemin !»
Le bichon, cependant, encouragé par le ton radouci de cette réponse, risqua une désobéissance. Il entra dans le salon, s'avançant sur la pointe du pied jusqu'à Madame Mantalini, en lui envoyant des baisers tout le long du chemin.
« Pourquoi se tourmente-t-il comme cela, ce petit amour ? Pourquoi allonge-t-il son petit museau boudeur en forme de casse-noisette ?
Dit-il en passant son bras gauche autour de la taille de l'âme de sa vie et en l'attirant du bras droit sur son sein.
Oh, je ne peux pas vous souffrir, répliqua sa femme.
Qui ?
Moi ? Ne pas me souffrir ? S'écria Mantalini. Chanson, chanson, c'est impossible ! Il n'y a pas une femme en ce monde qui eût le courage de me dire cela en face, en me regardant bien en face.
Et M. Mantalini, en disant cela, se caressait le menton et se mirait avec complaisance dans une glace vis-à-vis.
« Une extravagance ruineuse !» lui disait-elle à voix basse et d'un ton de reproche.
La faute en est tout entière à la joie qui me transportait d'avoir conquis une si aimable créature, une seconde petite Vénus, une diablesse de charmante, séduisante, attrayante, ravissante petite Vénus.
Voyez où vous m'avez conduite, reprit madame.
Il n'en arrivera, il ne pourra en arriver aucun mal. C'est une affaire finie, il n'y a rien à craindre. On se procurera de l'argent, et s'il le fait trop attendre, le vieux Nickleby viendra encore faire un tour par ici, où on lui coupera la jugulaire, s'il se met de tourmenter et de contrarier ma petite...
Chut ! Ne voyez-vous pas ?
Monsieur Mantalini, qui, dans son empressement à se réconcilier avec sa femme, avait oublié... ou fait semblant d'oublier jusqu'à la présence de mademoiselle Nickleby, fit signe qu'il comprenait à demi-mot, et mit son doigt sur ses lèvres, et parla plus bas encore. Il y eut alors une infinité de chuchoteries, dans lesquelles on put entendre plus d'une fois madame reprocher à monsieur certaines dettes par lui contractées avant le mariage, et par lui payées aux dépens du ménage d'une manière tout à fait inattendue, sans compter d'aimables faiblesses de gentleman, toutes ruineuses, le jeu par exemple, le gaspillage, la fainéantise, et un goût prononcé pour la chair de cheval dont il était très friand. À tous ces chefs d'accusation, Mantalini répondait victorieusement par un ou deux baisers, selon leur importance relative. Aussi, pour le bouquet, madame Mantalini devint plus folle de lui que jamais, et ils montèrent déjeuner les meilleurs amis du monde. Catherine s'occupait de ce qu'elle avait à faire. Elle disposait en silence, avec le plus de goût qu'elle pouvait, les divers articles qui formaient la décoration du magasin, lorsqu'elle tressaillit en entendant une voix étrange, une voix d'homme dans la chambre. Elle eut une autre douleur, en se retournant, lorsqu'elle se vit nez à nez avec un chapeau blanc, une cravate rouge, une grande figure plate, une grosse tête et une moitié d'habit vert, dont le reste n'était pas encore entré avec son propriétaire.
« N'ayez pas peur, mademoiselle, » se mit-il à dire. « C'est-il pas ici la boutique de la couturière, hein ?»«
Si fait !» répondit Catherine singulièrement étonnée.
« Qu'est-ce que vous voulez ?»
L'étranger ne répondit point, mais il commença par regarder derrière lui comme pour faire un signe à quelque individu du dehors, encore invisible, puis il entra d'un air décidé, suivi de près par un petit homme en habit brun, terriblement râpé, qui fit entrer avec lui un parfum composé de vieux tabac et d'oignons nouveaux. Ses vêtements étaient pleins de duvet, ses souliers, ses bas, sa culotte et son habit jusqu'à sa taille étaient peints en relief d'une foule de dessins confus formés par une crotte qui remontait à 15 jours avant que le temps se fût mis au beau. L'impression bien naturelle de Catherine fut d'abord que ces individus, avec leur tournure séduisante, n'étaient pas venus pour autre chose que pour s'assurer de la possession illégitime de quelques articles portatifs qui avaient eu l'honneur de frapper leur imagination en passant. Elle ne se donna pas la peine de déguiser son inquiétude et fit un mouvement vers la porte.
« Une petite minute !» dit l'homme en habit vert, fermant la porte doucement et se mettant le dos contre. « Il ne s'agit pas de plaisanter. Où est votre gouverneur ?»«
Mon quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?»
demanda Catherine d'une voix tremblante, car elle s'imaginait qu'en termes d'argot, « gouverneur » voulait dire sans doute « une bourse ou une montre ».
« Monsieur Mantalini, » dit l'homme, « où est-ce qu'il est ?
Est-il ici ?
Il est en haut, je pense, répondit Catherine, un peu rassurée par cette question. Avez-vous besoin de lui ?
Non, répliqua l'étrange visiteur. Je peux à la rigueur m'en passer, si ça le dérange. Donnez-lui seulement ma carte que voici, et dites-lui que, s'il désire me parler pour s'éviter quelques désagréments, je suis ici. Voilà tout.
En même temps, il mit dans la main de Catherine une grosse carte carrée, et, se retournant vers son ami, il lui fit remarquer, avec une grande aisance de manière, que l'appartement était d'une belle haute hauteur d'étage. L'ami partageait son sentiment, et pour mieux le faire valoir par une image vive, ajouta qu'il avait là un tas de chambres où on pourrait mettre un petit bonhomme pour grandir à son aise, sans crainte qu'il se cassât jamais la tête contre le plafond. Après avoir tiré la sonnette pour avertir Madame Antaligne, Catherine jeta un coup d'œil sur la carte, sur laquelle s'étalait le nom de Scully, avec l'énumération de quelques autres titres qu'elle n'eut pas le temps d'examiner, car son attention fut attirée par Monsieur Scully en personne, qui, se dirigeant vers une des psychées et la frappant au milieu de la glace d'un coup sec de sa canne, avec autant de sang-froid que si la glace eût été de fer, dit à son ami « Voilà un beau morceau, dites donc, Tix !»« Ah !» répliqua Monsieur Tix, en imprimant sans façon sur une pièce de taffetas bleu de ciel ses quatre doigts et le pouce. « Et cet article-ci, qu'en dites-vous ? Croyez-vous qu'il ait été fabriqué gratis ?» Monsieur Tix promena son admiration de la soie à d'autres articles de toilette élégants, pendant que Monsieur Scully, sans gêne, ajustait sa cravate et, se regardant dans la glace, puis profitant de l'invention qui réfléchissait son image pour considérer avec soin un bouton qui lui poussait sous le menton, il était encore absorbé dans cette occupation intéressante, quand Madame Mantaligne, en mettant le pied dans la chambre, poussa un cri de surprise qui réveilla son attention.
« Oh ! Est-ce là, madame ?» demanda Scully.
« C'est Madame Mantaligne, » dit Catherine.
« Alors, » dit Monsieur Scully, tirant de sa poche un petit document qu'il déplia sans se presser. « Voici un arrêt de saisie. » Et, à moins qu'il ne vous convienne de donner l'argent, nous allons, s'il vous plaît, parcourir toute la maison et procéder de suite à l'inventaire.
La pauvre Madame Mantaligne, dans la douleur, commença par se tordre les mains et par sonner son mari. Cela fait, elle se laissa choir sur une chaise, où elle se trouva mal immédiatement. Cependant, ces messieurs, sans y faire attention, n'en continuèrent pas moins l'exercice de leur industrie. Monsieur Scully, en particulier, était appuyé contre un porte-manteau décoré d'une robe magnifique, de manière que ses épaules semblaient, par derrière, sortir de la toilette, comme auraient fait les épaules de la belle dame à laquelle elle était destinée. Là, cessait l'illusion. Le gentleman, tenant son chapeau d'une main, pendant qu'il se grattait la tête de l'autre avec un air de parfaite indifférence. Pendant ce temps-là, Monsieur Tix, profitant de l'occasion pour prendre un aperçu général de l'appartement, avant de commencer à instrumenter, se tenait debout, son livre à inventaire sous le bras, son chapeau à la main, occupé d'un calcul mental sur la valeur respective de chacun des objets soumis à son inspection. Voilà où en étaient les affaires quand Monsieur Mantaligne accourut à toute hâte. Et comme cet échantillon de gentleman à la mode n'en était pas à sa première aventure, qu'il avait entretenu des rapports assez fréquents dans ses jours de célibat avec les confrères de Monsieur Scully, comme il avait d'ailleurs ses raisons pour n'être pas surpris le moins du monde de la circonstance présente, il se contenta simplement de hôter les épaules, de fourrer ses mains au fond de ses goussets, de relever ses sourcils, de siffler une note ou deux, de lancer un juron ou deux. Après quoi, il se mit à cheval sur une chaise et aborda la question avec beaucoup de tenue et de convenance.
« Quel est donc le chien de Total ? 38 175 francs 5 centimes, répondit M. Scali complètement immobile.
Que le diable emporte les 5 centimes, dit M. Mantalini avec impatience.
Je ne m'y oppose pas, si cela peut vous faire plaisir, repartit M. Scali, et les 175 francs avec.
Quand les 38 000 francs prendraient le même chemin, cela ne nous ferait pas grand-chose, à ce que je peux croire, remarqua M. Styx.
Pas seulement cela, dit Scali avec un grand geste de profonde insouciance.
Ah ça, continua-t-il, après un moment de silence. N'est-ce qu'un petit escroc? Ou si, c'est un vrai patatras?
Oh, une faillite en règle.
Bon, en ce cas, monsieur Tom Tix, mon gentilhomme, vous ne risquez rien d'informer votre amour de femme et votre aimable petite famille que vous n'irez pas coucher dans votre lit de 3 jours d'ici. Vous allez avoir ici de la besogne. Qu'est-ce qu'elle a donc à se tourmenter, cette dame ? Ajouta-t-il en entendant sangloter madame Mantalini. Elle sait pourtant bien que plus de la moitié de ce qui est ici n'est pas seulement encore payé. C'est toujours une consolation pour sa sensibilité.
C'est avec de pareilles réflexions, mélange heureux de bonnes plaisanteries et de philosophie encourageante dans des cas difficiles, que M. Scali procéda à l'inventaire, assisté matériellement dans cette tâche par le tact délicat et l'expérience peu commune de M. Tix, brocanteur.
Coupe enchantée de bonheur, dit M. Mantalini s'approchant de sa femme d'un air pénitent.
« Voulez-vous me prêter l'oreille 2 minutes seulement ?»«
Ah, ne me parlez pas !» répliqua sa femme, toujours sanglotante.
« C'est vous qui m'avez ruinée. En voilà assez !»
M. Mantalini, qui avait sans doute bien étudié son rôle, n'eut pas plutôt entendu prononcer ces mots d'un ton triste et sévère qu'il recula de quelques pas, donna à sa physionomie une expression de douloureuse et secrète agonie, se précipita à tête baissée hors de la chambre et, bientôt après, on entendit la porte d'un cabinet de toilette du second étage se fermer avec fracas.
« Mademoiselle Nickleby !» cria madame Mantalini
à ce bruit terrible.
« Dépêchez-vous au nom du ciel, il va se détruire! Je lui ai dit des duretés, il n'aura pas le courage de les supporter! Alfred, mon mignon, Alfred !»
Et voilà madame Mantalini, escaladant le second avec force exclamation du même genre, suivie de Catherine, qui, sans partager toutes les craintes de l'épouse passionnée, n'était cependant pas sans quelques émotions. On ouvre toute grande la porte du cabinet de toilette, et que voit-on ?
Grand Dieu, monsieur Mantalini, le col de sa chemise rabattu avec symétrie, donnant le fil à un couteau de table sur un cuir à rasoir.
S'écria madame Mantalini, prise à l'improviste.
Et le couteau de table disparut à l'instant dans la poche de la robe de chambre de monsieur Mantalini, pendant que monsieur Mantalini roulait des yeux égarés, que ses cheveux épars flottaient en désordre et dérangeaient l'économie de ses favoris.
« Alfred !» cria l'épouse en se jetant à son cou. « Non, je ne voulais pas dire ce que j'ai dit. Non, je ne le voulais pas !»«
Ruiné !» cria à son tour M. Mantalini. « Moi, j'ai ruiné la meilleure créature, l'ange le plus pur qui ait jamais béni l'existence d'un damné de vagabond. Nom d'un chien, laissez-moi faire !»
À ce moment de crise furieuse, M. Mantalini plongea la main à la recherche d'un couteau de table. Mais, se voyant saisir le bras par les doigts délicats de son épouse qui le retint, il veut au moins essayer de se briser la tête contre la muraille. Heureusement, il a grand soin de s'en tenir au moins à 6 pieds de distance.
« Calmez-vous, mon cher ange !» dit madame. « Je sais bien que c'est la faute de personne, c'est la mienne autant que la vôtre. Nous nous tirons encore une fois d'affaire. Venez, Alfred, venez !»
Monsieur Mantalini ne crut pas convenable de venir tout de suite. Il demanda d'abord à plusieurs reprises qu'on lui donnât du poison, ou bien qu'on envoyât chercher quelqu'un, mâle ou femelle, pour lui faire sauter la cervelle. À la longue, cependant, sa sensibilité devint plus tendre,
et des larmes pathétiques coulèrent. Une fois dans cette disposition d'esprit à des sentiments plus doux, il n'opposa plus de résistance à ce qu'on le désarma de son couteau. D'autant plus qu'il n'était pas fâché d'en être débarrassé. C'est très gênant et même dangereux, un couteau de table dans une poche. Bref, il finit par se laisser entraîner par sa belle et tendre moitié. Au bout de 2 ou 3 heures, les demoiselles de l'atelier furent remerciées jusqu'à nouvel ordre, et 2 jours après, le nom de Mantaline y parut sur la liste officielle des déconfitures. Le même jour, Mademoiselle Nickleby reçut avis par la poste que la maison serait désormais au nom de Mademoiselle Nag, qui n'avait plus besoin de ses services. En recevant cette nouvelle, Madame Nickleby déclara qu'il y avait longtemps qu'elle s'y attendait, et cita plusieurs circonstances dont personne ne se souvenait qu'elle, où elle avait dû prophétiser la chose avec exactitude. « Et je le répète, » ajouta-t-elle, quoique ce fût bien, comme on le pense, la première fois qu'elle en avait parlé. « Je le répète, l'état de modiste et de couturière est bien le dernier, ma fille, auquel vous eussiez dû jamais penser. Je ne vous en fais pas un reproche, ma chère enfant, mais encore dois-je vous répéter que si vous aviez consulté votre mère... » « Bien, maman, bien, » dit doucement sa fille. « Qu'est-ce que vous me conseillez maintenant ?»«
Ce que je vous conseille ?» cria Madame Nickleby. « Ne tombe-t-il pas sous le sens que, de toutes les préoccupations faites pour une personne de votre rang, celle de demoiselle de compagnie chez une dame aimable, et justement la situation à laquelle vous êtes préparée par votre éducation, vos manières, votre extérieur, et tout enfin. N'avez-vous jamais entendu parler à votre cher père de la fille de la vieille dame qui était dans la même pension bourgeoise que lui quand il était garçon? Comment donc s'appelait-elle déjà? Je sais que cela commençait par un B et finissait par un G. N'était-ce pas Waters? Non, ce ne pouvait pas être cela. Mais enfin, n'importe le nom. « Ne vous souvenez-vous pas que cette demoiselle entra comme dame de compagnie chez une dame mariée qui mourut peu de temps après? Qu'elle épousa le mari et qu'elle eut elle-même un des plus jolis petits garçons que les accoucheurs eussent jamais vus au monde, le tout dans l'espace de 18 mois !»
Catherine se doutait bien que ce torrent de souvenirs opportuns devait être occasionné par quelque oasis nouvelle. Réel ou imaginaire, dont sa mère avait fait la découverte dans le monde particulier des dames de compagnie. Elle attendit donc avec beaucoup de patience qu'elle eût épuisé toutes ses réminiscences et ses anecdotes, plus ou moins applicables au sujet, avant de se hasarder à lui demander quelle était la découverte qu'elle avait faite. La vérité ne tarda pas à se faire connaître. Madame Nickleby s'était procuré le matin même un journal de la veille au café, d'où on lui apportait sa bière. Le journal de la veille contenait un avis rédigé en anglais du style le plus pur et le plus correct, annonçant qu'une dame mariée désirait s'attacher, comme demoiselle de compagnie, une jeune personne de bon ton, et qu'on trouverait le nom et l'adresse de la dame mariée chez un libraire du quartier West End, dont on indiquait exactement la demeure. «
Et je vous déclare !» s'écria Madame Nickleby, déposant le journal d'un air triomphant. « Que, si votre oncle n'y voit pas d'inconvénient, cela vaut la peine d'y aller voir !»
Catherine était trop découragée par le succès de la joute énergique qu'elle venait déjà de soutenir contre le monde, et s'intéressait trop peu en ce moment au sort qui lui était réservé pour faire la moindre objection. Monsieur Ralph Nickleby, loin d'en faire de son côté, approuva au contraire cette idée de toutes ses forces. Il ne se montra pas non plus autrement surpris de la faillite soudaine de Madame Mantaline. Et certes, il lui était bien étrange qu'il en parût étonné, car il y avait contribué plus que personne pour sa part. On alla donc chercher le nom et l'adresse de l'inconnu sans perdre de temps. Et Miss Nickleby partit avec sa mère le matin même à la recherche de Madame Wititterly, place Cadogan, rue Sloane. La place Cadogan est un petit trait d'union entre 2 grands extrêmes. Ces anneaux qui relient les trottoirs aristocratiques de Belgrave Square et les contrées barbares de Chelsea. Elle est bien dans la rue Sloane, mais elle ne lui appartient pas.
Les gens de la place Cadogan jettent un regard de dédain sur la rue Sloane et regardent Brompton comme au-dessus d'eux. Ils singent les airs du grand monde et font semblant de ne pas savoir où se trouve situé New Road. Non pas, cependant, qu'il y ait fatuité de se croire précisément sur le même pied que les personnes de la haute volée qui habitent Belgrave Square et Grosvenor Place. Mais il s'attribue auprès d'elles le même rang que ces enfants illégitimes de grands seigneurs qui se vantent de leur parentage, quoique désavoués par leurs parents. Au milieu de leurs airs de ressemblance avec les conditions les plus élevées, les gens de la place Cadogan n'ont en réalité qu'une situation secondaire. C'est, si l'on veut, le conducteur qui transmet aux habitants des régions ultérieures le choc électrique de l'orgueil, de la naissance et du rang, qu'il ne porte pas en lui-même, mais qu'il tire d'une source plus élevée. Ou bien encore, elle ressemble à la membrane qui unit les frères siamois, dans laquelle circule quelque chose de la vie et de l'essence des deux jumeaux, sans qu'elle appartienne à l'un ni à l'autre. C'est sur ce terrain ambigu que demeurait Madame Wititterly. C'est sur ce terrain ambigu que demeurait Madame Wititterly et que Catherine Nickleby souleva le marteau d'une main tremblante à la porte de Madame Wititterly. Le valet qui vint l'ouvrir était un gros garçon aux cheveux poudrés, ou plâtrés, ou blanchis par tout autre procédé que la poudre véritable. Et le gros valet, après avoir reçu la carte d'instruction, la donna à un petit page, si petit en effet que sa taille ne comportait pas sur deux rangs, comme d'habitude, le nombre de petits boutons indispensables au costume de tout page. On avait été obligé de les mettre sur quatre rangs, par devant. Ce jeune messager monta la carte sur une soucoupe et, attendant son retour, Catherine et sa mère furent introduites dans une salle à manger assez malpropre et de chétive apparence, si commodément agencée qu'elle était également propre pour tous les usages, excepté pour boire et pour manger. Maintenant, selon le cours régulier des choses et conformément à toutes les descriptions authentiques de la haute société qu'on trouve dans les livres, Madame Wititterly aurait dû se trouver dans son boudoir. Mais, soit que Monsieur Wititterly fût en ce moment à se faire ou non la barbe dans le boudoir de Madame, toujours est-il que Madame Wititterly donna audience à ses visiteuses dans le salon, bien pourvue de tout ce qui était utile et nécessaire pour protéger contre le trop grand jour la fleur délicate du teint de Madame Wititterly, y compris des rideaux et des housses d'un rose tendre. N'oublions pas un roquet accoutumé à mordre les mollets des étrangers pour amuser Madame Wititterly et le susdit page, toujours prêt à servir du chocolat pour restaurer Madame Wititterly. La dame avait un air de douceur insipide et un teint d'une pâleur intéressante. Il y avait autour d'elle et sur elle, dans sa personne comme dans son mobilier et toute sa maison, quelque chose de fané. Elle était étendue sur un sofa, dans une attitude si naturelle qu'on aurait pu la prendre pour une danseuse, le pied levé pour entrer en scène dans un ballet, et n'attendant plus pour prendre son vol que le lever du rideau. « Donnez des chaises !» Le page les avança. « Sortez, Alphonse !» Le page sortit.
« Quel Alphonse !»
Il portait plutôt écrit sur sa figure le nom de Baptiste ou de Gros-Jean. « J'ai pris, madame, » dit Catherine après quelques minutes d'un silence général assez embarrassant, « la liberté de venir vous voir d'après un avis que vous avez fait insérer dans les journaux. »« Ah oui !» répliqua Madame Wititterly. « Un de mes gens l'a fait mettre dans les journaux, en effet. »« J'ai pensé, madame, » continua Catherine d'un ton modeste, « que si vous n'avez pas encore arrêté votre choix, vous voudriez bien me pardonner la peine que je vous donne en venant me proposer. »« Oui, » répéta Madame Wititterly d'une voix traînante. « Si au contraire, vous avez déjà choisi... »« Ah, oh, mon Dieu, non !» dit la dame en l'interrompant. « Je ne suis pas si facile à décider, je ne sais réellement que vous dire.
Avez-vous déjà été employée comme dame de compagnie ?»
Madame Nickleby, qui grillait d'impatience de dire son mot, saisit habilement cette occasion, avant que Catherine eût pu répondre.
« Pas chez une étrangère, madame, » dit la bonne dame. « Mais elle m'a tenu compagnie bien des années. C'est moi qui suis sa mère, madame. »«
Oh !» dit madame Wititterly. « Je comprends. »
« Il fut un temps où je ne songeais guère, madame, » reprit madame Nickleby, « que ma fille dut jamais être obligée d'aller chez le monde, car son pauvre cher papa était un gentleman qui vivait de son bien, et il en vivrait encore à l'heure qu'il est s'il avait seulement voulu prêter l'oreille à mes prières, à mes... »«
Chère maman, » lui dit Catherine à voix basse.
« Ma chère Catherine, si vous voulez bien me permettre de parler, je prendrai la liberté d'expliquer à cette dame.
Cela me paraît peu nécessaire, maman. »
Et malgré tous les clins d'œil et les froncements de sourcils de madame Nickleby pour faire comprendre qu'elle allait dire quelque chose qui déciderait immédiatement la chose, Catherine maintint la position jusqu'au bout par un regard expressif. Et madame Nickleby fut, pour cette fois, arrêtée sur le bord d'une harangue intempestive.
« Qu'est-ce que vous savez faire ?»
demanda madame Wititterly, les yeux fermés. Catherine détailla en rougissant ses talents principaux, pendant que madame Nickleby la contrôlait en les repassant d'avance un à un sur ses doigts, pour voir si elle n'en oubliait pas. Heureusement, les deux calculs se trouvèrent d'accord, ce qui priva encore madame Nickleby d'une occasion de prendre la parole.
« Vous avez un bon caractère ?» demanda madame Wititterly, entr'ouvrant les yeux pour les fermer encore.
« Je l'espère, madame, » répondit Catherine. « Et vous avez des répondants sûrs et respectables sur tous les points, n'est-ce pas ?»
Catherine répondit qu'elle en avait et déposa sur la table une carte de son oncle.
« Ayez la complaisance de vous approcher un peu plus près avec votre chaise que je vous regarde, » dit madame Wititterly. « Je l'ai vu si court que je ne peux pas bien distinguer vos traits. »
Catherine fit ce qu'on lui demandait, non sans éprouver quelque embarras, et madame Wititterly examina sa figure à son aise d'un œil languissant. L'examen dura au moins 2 ou 3 minutes.
« Votre extérieur me plaît, » dit la dame en tirant une petite sonnette. « Alphonse, priez votre maître de venir. »
Le page disparut pour remplir sa mission, et après un court intervalle, pendant lequel on ne dit pas un mot des deux côtés, la porte s'ouvrit pour laisser passer un gentleman imposant de 38 ans environ, d'un visage un peu commun, la tête peu garnie de cheveux, qui se tint penché quelque temps par derrière, sur le fauteuil de madame Wititterly, échangeant avec elle quelques mots à voix basse.
« Oh !» dit-il en se retournant. « Certainement, il s'agit ici d'une affaire très importante. Madame Wititterly est d'une constitution très irritable, très délicate, très fragile. C'est une plante de serre chaude, une feuille exotique. »«
Henri, mon bon !»
dit madame Wititterly jouant l'embarras.
« Je dis la vérité, m'amour, vous le savez bien comme moi. Un souffle !»
Et ici, monsieur Wititterly fit comme s'il soufflait en l'air un fétu imaginaire.
« Un souffle, un simple souffle. Pff, et vous voilà parti. »
La dame soupira.
« Votre corps est trop étroit pour votre âme, » dit monsieur Wititterly. « La lame use le fourreau. Tous les médecins en conviennent. » Vous savez qu'il n'en est pas un qui ne tienne pas à l'honneur d'être appelé près de vous pour observer votre mal. Eh bien, quelle est d'après vous leur déclaration unanime ?
Mon cher docteur, disais-je à Sir Thomas Nuffim, dans ce salon même, lors de la dernière visite de ce cher docteur,
mon cher docteur, quelle est la maladie de ma femme ? Ne me cachez rien, j'aurai le courage de tout entendre. « Est-ce les nerfs ?»«
Mon brave monsieur, » m'a-t-il répondu, « soyez fier d'avoir une telle femme, et choyez-la bien. C'est un ornement pour la société distinguée comme vous.
Elle n'a mal qu'à l'âme. C'est l'âme qui, chez elle, se gonfle, s'épanche, se dilate. Alors, son sang s'allume, son pouls accélère, son excitation redouble. Hachi !»
C'est que monsieur Wititterly,
qui, dans le feu de sa description, avait balancé sa main dans les airs à quelques lignes du chapeau de Madame Nickleby et l'avait tout à coup retiré brusquement pour se moucher avec un bruit aussi terrible que celui du ronflement que ferait une machine de la force de 30 chevaux. « Vous me faites plus étrange que je ne suis, Henri, » dit Madame Wititterly avec un faible sourire. « Non pas, Julia, non pas. La société dans laquelle vous entraîne nécessairement votre rang, vos relations, votre mérite, est un gouffre, un tourbillon d'une effrayante activité pour exciter votre sensibilité. Dieu du ciel! Quand je pense à cette soirée où vous dansâtes avec le neveu du baronnet au bal d'Exeter, il y a de quoi faire frémir. Il n'y a pas un seul de ces triomphes que je ne paie bien plus cher. Et c'est justement pour cela qu'il vous faut une dame de compagnie dont le caractère vous présente une grande tranquillité, une grande douceur, une excessive sympathie, un repos parfait. Ici, monsieur et madame Wititterly, dont la conversation s'adressait surtout, sans en avoir l'air, aux dames Nickleby, cessèrent leur dialogue et regardèrent leur auditoire d'un air qui voulait dire « Hein ? Qu'est-ce que vous dites de tout cela ?»« Madame Wititterly, » dit son mari en s'adressant directement à madame Nickleby, et recherchée, courtisée par les réunions les plus brillantes, les cercles les plus à la mode. Elle est impressionnée par l'opéra, le drame, les beaux-arts, la noblesse, mon cher ami. La noblesse, cela va sans dire, et le militaire. Elle se forme sur une immense variété de sujets, une immense variété d'opinions qu'elle énonce, avec une immense variété d'expressions. Il y a bien des gens dans le monde, s'ils savaient l'opinion que Madame Wititterly a conçue de leur personne, qui ne porterait pas la tête si haute. « Henri, en voilà assez. Ce n'est pas bien, » dit la dame. « Je ne cite aucun nom, Julia, » répliqua Monsieur Wititterly. « Ainsi personne n'a à se plaindre. J'entre seulement dans quelques détails pour montrer que vous n'êtes pas une personne comme une autre, qu'il y a un frottement perpétuel entre votre esprit et votre corps, et que vous avez besoin d'être calmé et choyé. À présent, il nous reste à nous informer positivement et avec exactitude des garanties que Madame présente pour cet emploi. » Il fallut donc, pour répondre à cette question, recommencer à nouveau la liste des qualités et des talents de Catherine, le tout interrompu par les interrogations de Monsieur Wititterly. Enfin, il fut décidé qu'on irait aux informations et qu'on adresserait à Mademoiselle Nickleby une réponse définitive d'ici à 2 jours, sous le couvert de son oncle. Une fois convenu de leur fait, le page reconduisit ces dames jusqu'à la fenêtre de l'escalier, où le gros valet de pied était de faction pour le relever et pour piloter ces dames saines et sauves jusqu'à la porte. « Voilà des gens très distingués, évidemment !» dit Madame Nickleby en prenant le bras de sa fille. « Quelle personne supérieure que cette Madame Wititterly !»«
Vous trouvez, maman ?» répliqua seulement Catherine.
« Comment ? Et qui donc ne le trouverait pas, ma chère Catherine ?»« Seulement, elle est bien pâle et paraît bien épuisée. J'espère qu'elle ne touche pas encore à sa fin, mais j'en ai bien peur !»
Ces réflexions plongèrent naturellement la prévoyante mère dans une série de calculs de probabilité sur le temps que Madame Wititterly pouvait avoir encore à vivre, sur les chances qu'il y avait pour que le veuf inconsolable offrît sa main à Catherine. Elle n'était pas encore rentrée chez elle, qu'elle avait déjà affranchi l'âme de Madame Wititterly de ses liens terrestres, marié sa fille en grande pompe à Saint-Georges, à Hanover Square. Elle n'avait plus qu'un point à résoudre, mais il n'était pas d'importance, à savoir si le magnifique bois de lit en acajou, verni français qu'on lui destinait à elle-même, serait dressé pour elle, au second, sur le derrière de la maison de la place Gadogar, ou au troisième, sur le devant. Entre les deux, son cœur balançait encore, et elle s'en tira sagement en prenant le parti de s'en rapporter à la décision de son gendre. Information prise, la réponse fut favorable, ce qui ne veut pas dire que Catherine en fut bien joyeuse. Et, au bout de la semaine, elle se transporta avec tous ses biens, meubles et valeurs, à l'hôtel de Madame Wititterly, où nous la laisserons pour le moment.